Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire vraiment fascinante. Une histoire de renaissance, de foi, mais aussi de technologie.
Tout à fait. Et pour ça, notre document de base est un article passionnant de Catherine Cazel, tiré du bulletin du Cartoclub Aveyronnais de janvier 2021.
Oui, il faut d'ailleurs saluer le travail de Guy Mazars pour la mise en page qui rend l'article très vivant. Il raconte la restauration de l'abbaye cistercienne de Bonnecombe. Mais ce qui est unique, c'est que l'histoire est racontée à travers l'essor de la photo.
Exactement, c'est ça notre mission aujourd'hui. Comprendre comment une communauté a fait renaître un lieu de ses cendres entre 1876 et 1965, et surtout, comment la photo, les cartes postales, ces nouveaux médias de l'époque, ont servi à la fois de mémoire.
Alors, commençons par le début. Le point de départ, c'est la désolation la plus totale. On a cette abbaye fondée en 1167, une histoire immense.
Et la Révolution française qui met un stop brutal à tout ça. Elle est vendue comme bien nationale en 1796.
Et après, pendant 80 ans, c'est le vide. L'abandon, le pillage. Elle devient une carrière de pierre, c'est ça?
C'est exactement ça, une carrière. Les photos d'archives de l'abbaye d'Aiguebelle, qui est la maison mère, sont saisissantes. On voit des murs éventrés, la coupole de l'église à ciel ouvert. C'est un squelette de pierre.
Le point zéro, donc.
Oui. Et il faut un déclencheur pour inverser la tendance. Cet homme, c'est Monseigneur Bourret, l'évêque de Rodez, qui arrive en 1871. Il a une vision, faire renaître les anciennes abbayes.
Et il passe à l'action. Il rachète les ruines de Bonnecombe en 1876.
Ouais. Et le détail est important, il les rachète à la Société des Mines de Carmaux.
Ah, le symbole est puissant.
Très puissant. On passe d'un usage industriel, une carrière, à une vocation spirituelle. C'est la première pierre symbolique de la reconstruction.
La reconstruction qui commence, j'imagine, dans des conditions extrêmement précaires.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le 29 juin 1876, deux moines trappistes arrivent. Deux.
Juste deux moines face à ce champ de ruines.
Voilà. Ils s'installent dans le seul bâtiment qui tient encore à peu près debout, l'infirmerie du XVIIIe siècle, et leur toute première action, c'est d'aménager une petite chapelle provisoire à l'étage.
La priorité, c'est la prière. L'article mentionne un détail visuel sur les premières photos, c'est assez touchant.
Oui, on voit un tout petit clocheton en bois, presque fragile, sur le toit de l'infirmerie. C'est le signal. La vie monastique a repris. Et cette chapelle improvisée, elle va servir pendant 15 ans.
15 ans. Mais alors, pour financer tout ça, ils partent de rien, comment ils font?
C'est là qu'on voit leur intelligence pratique. Ils vivent selon la règle prière et travail. Donc ils défrichent, ils cultivent pour survivre. Mais pour reconstruire, il faut de l'argent.
Bien sûr.
Alors, ils lancent ce qu'on appellerait aujourd'hui une campagne de crowdfunding. Ils font imprimer 32 000 images pieuses à distribuer aux donateurs.
Et l'image elle-même est une opération de com, en fait.
Totalement. C'est du marketing de projet. Et c'est là que le paradoxe de leur histoire commence. Ils ont besoin de se montrer au monde pour reconstruire un lieu qui est fait pour se retirer du monde.
C'est vrai.
L'image, dessinée par un des frères, montre Saint Bernard qui remet le plan de l'abbaye au supérieur, le père Sûrieux, et ce dernier est en tenue de travail devant les ruines. Le message est limpide. Voici le projet, aidez-nous à le réaliser.
Et visiblement, ça marche. La communauté grandit vite.
Très vite, en 1880, ils sont déjà une vingtaine et ils immortalisent ce moment avec la photo des fondateurs, le 21 octobre.
Ils avaient conscience de vivre un moment historique?
Ah oui, ce n'est pas une photo anodine. Les noms de tous les frères sont notés dans les archives. C'est un acte de mémoire.
Une fois la communauté là, il faut la nourrir. Ils s'attaquent donc à la terre?
C'est la priorité numéro 2. Ils déblaient, ils remettent les terres en culture, ils créent même une grange à l'extérieur, Saint-Rémy, pour le blé, les patates, l'élevage. Bref, ils deviennent autonomes.
Une fois l'autonomie assurée, ils peuvent enfin s'attaquer au cœur du projet.
L'Église.
L'Église?
Absolument. Sous l'impulsion d'un nouveau prieur, Dom Emmanuel Bernex, le grand chantier démarre en 1889. Et là, leur détermination est presque surhumaine.
Attendez, l'article dit qu'il restaure cette église du XIIe siècle, en ruine, en à peine 2 ans. Ça me paraît fou.
C'est stupéfiant. Une soixantaine d'hommes, moines et ouvriers laïcs travaillent sans relâche. Chaque pierre est un acte de foi. Et le 15 août 1891, l'église est bénie, rendue au culte. C'est à l'aboutissement de 15 ans de travail acharné.
Et pour marquer le coup, un symbole du temps qui reprend son cours est installé.
Oui, un donateur offre une horloge installée dans un petit clocheton au-dessus de la porte. Après des décennies de silence, Bonnecombe sonne à nouveau.
L'article ajoute une note un peu tragique, non ?
Oui, il précise que cette même horloge, témoin de la Renaissance, disparaîtrait dans l'incendie de 1972, bien après leur départ. C'est un cycle.
Avec l'église restaurée, on entre dans une nouvelle ère pour Bonnecombe. Et la photographie prend encore plus de place.
Tout à fait. Au début du XXe siècle, la carte postale, c'est le grand média de masse. Et Bonnecombe devient un sujet populaire. Un photographe massole en fait des séries entières.
Et on ne montre plus seulement l'extérieur, on entre à l'intérieur.
C'est ça. On voit le cloître, le réfectoire, le dortoir des moines. L'intimité de la vie monastique est exposée.
Et c'est là que le paradoxe dont on parlait, il refait surface, mais de manière beaucoup plus conflictuelle.
Exactement. Toute cette visibilité qui était nécessaire commence à heurter de plein fouet la règle trappiste. Le silence, la discrétion, le retrait du monde. L'outil de la Renaissance devient une menace pour leur identité.
Alors, comment ils gèrent ça ? Il y a une réaction officielle ?
Ah oui, une réaction très forte. La source cite le chapitre général de l'ordre en 1906. Les supérieurs s'inquiètent de l'abus réel des cartes postales illustrées où l'on fait figurer des religieux parfaitement reconnaissables.
C'est clair.
La décision est sans appel, interdiction de publier de nouvelles cartes montrant les moines. Fin de l'histoire.
Et le photographe, Massol, il fait comment ?
Il s'adapte. C'est très habile. Il ne peut plus montrer les visages, alors il change ses compositions. D'abord, il photographie les moines de loin, de dos, dans les champs. Ils deviennent des silhouettes.
Anonymes.
Voilà. Et puis, sur ces cartes les plus récentes, les personnages disparaissent complètement. Il ne reste que l'architecture. La vie redevient invisible, protégée.
C'est un conflit fascinant. Mais à l'intérieur, la vie continue et elle n'est pas du tout figée dans le passé. Le témoignage sur le moulin est incroyable.
Ah oui, celui de Victor Alauzette, apprenti meunier en 1942. Il décrit une merveille de technologie. Un moulin ultra-moderne équipé en Schneider-Jacquet.
On est loin de l'image d'Épinal. Guy parle d'une capacité de 120 quintaux en 24 heures. C'est une vraie entreprise.
C'est un acteur économique. En 1958, leur minoterie est classée 20e sur 86 dans l'Aveyron. C'est pas rien.
Mais comment cette activité quasi industrielle cohabite avec la règle du silence ?
C'est ça qui est passionnant. Il explique que les machines étaient très silencieuses. La modernité a été choisie pour s'adapter à la tradition. Et il décrit les moines qui communiquent par signes au moulin.
L'abbaye est moderne aussi sur le plan énergétique, si j'ai bien lu.
Absolument. Ils ont leur propre petite centrale hydroélectrique. Non seulement ils sont autonomes, mais ils fournissent de l'électricité aux hameaux voisins. C'est une communauté intégrée, utile à son territoire.
Et pourtant, malgré tout ce dynamisme, la fin de l'histoire approche.
Oui. Le dynamisme interne ne peut rien contre la tendance de fond en Europe. La baisse des vocations après la guerre, la communauté vieillit, ne se renouvelle plus.
Et la fin est décidée de manière très pragmatique, finalement.
C'est une fin paisible, oui. Pas un drame. En 1964, le chapitre général propose la fermeture, c'est validé, et le 8 septembre 1965, c'est terminé. Les 22 derniers moines sont répartis entre deux abbayes, Notre-Dame-des-Neiges et
Aiguebel. La boucle est bouclée.
Perfectement bouclée. Le voyage, commencé en 1876 par deux moines d'Aiguebel, se termine 90 ans plus tard par le retour des derniers frères à la maison mère.
C'est une fin d'une symétrie assez poignante.
Oui, il n'y a pas d'échec, c'est simplement la fin d'un cycle de vie.
Alors, pour conclure, si on prend un peu de recul, on a suivi un cycle complet, de la ruine à la Renaissance, puis à une fermeture sereine. Une aventure immortalisée par la photo.
Et la tension qui traverse toute cette histoire, c'est leur rapport au monde. Ils ont eu besoin des médias de masse de l'époque, les images pieuses, puis les cartes postales pour se financer.
Pour exister, tout simplement.
Voilà. Mais cet outil de survie a fini par menacer leur identité profonde, leur valeur de silence, d'humilité.
C'est un dilemme qui est encore terriblement d'actualité aujourd'hui, non ? Pour beaucoup d'organisations, d'artistes.
Exactement. Et la question que pose Bonnecombe est intemporelle. Comment une institution qui prône la discrétion peut-elle survivre dans un monde qui exige toujours plus de visibilité ? Les images ont sauvé Bonnecombe, matériellement. Mais n'ont-elles pas aussi un peu failli trahir son âme ? C'est ce paradoxe qui rend leur histoire si universelle.